je me disais, je suis ici à l'école, c'est la fondatrice. Dans le monde du street dance, on a beaucoup de respect pour nos pionniers, puis les anciens, tout ça, la fondation. Donc, pour moi, c'était très important de me lancer et de mettre de côté toutes les réticences que je pouvais avoir, toutes les craintes.
Le collectif Leg et Espace Perrot Transmission Chorégraphique présente Un morceau de chocolat avec Linda. Une série de discussions autour du leg pédagogique et artistique de Linda Rabin.
Bonjour, je suis Lucie Boissineau. Nous sommes le 22 novembre 2024. Aujourd'hui, j'anime une rencontre entre Linda Rabin et une personne qui a croisé son chemin et a été marquée par le travail de celle-ci. Et j'ai nommé Sovan Rochon Romtep. Salutations chaleureuses à vous deux.
Salut.
D'être en votre précieuse compagnie.
Oui.
J'aimerais, a priori, Sovan, que tu nous parles de toi comme artiste en danse, maintenant, en 2024. Un bref portrait de ton parcours. Tu viens du monde des danses de rue. J'aimerais, a priori, que tu nous parles de cette fascination.
Oui, cette fascination pour le street dance, les danses de rue, elle s'est développée à un très jeune âge parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui faisait du break quand j'étais tout jeune, j'avais à peu près 8 ans. Et puis lui, il invitait tous ses amis au coin de la rue pour danser dehors avec une radio, c'était l'été. Et donc ses amis, ben, c'était la communauté de break de Montréal qui était établie au début des années 2000. Et donc moi, en tant qu'enfant, ben, je venais leur voler des pointes de pizza, puis apprendre quelques mouvements. Et puis de cette rencontre-là, j'ai rencontré d'autres gens, puis j'ai un peu grandi avec la communauté de break de Montréal. Donc ça a été un peu ma première, deuxième famille de grandir avec cette communauté-là. Et puis, c'est toujours une pratique qui fait partie de ma vie. Le break, c'est un peu mes racines autour desquelles je navigue et j'explore plein d'autres approches de danse.
Oui, je vois. Puis alors, qu'est-ce qui t'a amené à la danse contemporaine, Sovan?
Ce qui m'a amené à la danse contemporaine, plusieurs choses. Je ne savais pas exactement ce qu'était la danse contemporaine, mais mon impression, c'était que c'était une vision assez large de la danse. C'était comme l'équivalent de l'art visuel, mais pour la danse. Donc, je sentais que c'était une forme un peu décloisonnée. Et puis, moi, je me posais des questions à ce moment-là de ma carrière de break. C'était le début de l'adolescence. Ben, non, la fin de l'adolescence, mais je me disais, bon, si je veux avoir une carrière qui est lucrative, à l'époque, le break, c'était plus ou moins considérable de faire des sous avec ça, mais aussi, je me disais, le break est relié à une culture qui appartient à une époque, au Bronx des années 70, et il a évolué depuis, mais je trouvais ça un peu étroit de m'identifier seulement à cette culture qui n'est pas tout à fait la mienne. Donc, je voulais explorer au sens large qui j'étais comme danseur dans une espèce de canevas de toutes les possibilités. Et puis, c'est un peu ça que je suis venu chercher à l'école de danse contemporaine de Montréal, qui était la mienne à l'époque. Et je savais pratiquement rien ni de cette école, ni dans quoi je m'embarquais, ni du milieu de la danse contemporaine de
Je
Montréal.
me souviens, puisque j'étais à la direction à ce moment-là, je me souviens très bien. Tu étais très, très, très ouvert à toutes ces possibilités-là, déjà. Ça se voyait, ça se sentait, et puis tu étais très poreux, en somme. Maintenant, si on revenait peut-être plus en 2024, je te demanderais de me dire, de nous dire quelles sont tes principales activités artistiques en ce moment. Qu'est-ce qui te tient à cœur? À quoi tu œuvres?
Il y a plusieurs choses que je fais, tu sais, avec la danse, on a souvent plusieurs petits chapeaux qu'on interchange. Dans la danse, je crée des spectacles. Je me considère chanceux d'avoir côtoyé à la fois le milieu du street dance, qui est un peu underground des fois dans des événements qui sont plus difficiles à trouver parce que c'est un milieu qui était jusqu'à date un peu moins organisé. Donc, je me considère chanceux de pouvoir témoigner de tout ce bassin d'artistes et je me considère aussi chanceux d'avoir découvert au fil des années cette nouvelle communauté de la danse contemporaine qui a un peu sa plateforme de diffusion, son public qui la suit, son système qui fonctionne et puis qui a aussi cette grande ouverture à ce qu'est la danse, comment elle est présentée. Qui est très ouverte, poreuse et prête à être déconstruite et reconstruite. Donc, je me suis donné un peu la responsabilité dans mon univers chorégraphique
Oui.
de profiter de ce privilège que j'ai pour pouvoir faire découvrir dans le cadre de la philosophie un peu de ce qui se présente dans les théâtres. De faire découvrir l'accès spécial et la compréhension spéciale que j'ai des artistes que je vois du milieu du street dance. Et c'est un bonheur pour moi de créer cette rencontre un peu, puis de voir comment ces deux manières de penser la danse sont parfois très éloignées et parfois très proches et peuvent se retrouver à travers le public et les artistes qui gravitent autour de moi.
C'est merveilleux, Sovan, c'est très bien dit. Puis c'est vrai, on te voit à l'œuvre, tu es très proactif et tu fais de très, très belles choses. Maintenant qu'on a compris qui tu étais, j'aimerais qu'on parle de ta première rencontre avec Linda Rabin.
Aïe, ma première rencontre avec Linda Rabin. Ben, Linda Rabin, c'était un peu un mythe à l'école parce que c'était la fondatrice de l'école. C'est une personne que j'ai compris avant même de la rencontrer, son importance puis son impact dans le milieu de la danse à Montréal. Et puis, j'étais très, on va dire, sceptique parce que j'avais pas eu accès à des approches un peu plus ritualistiques ou avec une grande, on va dire, une sensibilité fine et qui déconstruit un peu l'habitude de comment les humains se comportent dans la vie de tous les jours, là. Donc, j'arrivais avec je savais que j'avais une base de scepticisme, mais je me disais, je suis ici à l'école, c'est la fondatrice. Dans le monde du street dance, on a beaucoup de respect pour nos pionniers, puis les anciens et tout ça, la fondation. Donc, pour moi, c'était très important de me lancer et de mettre de côté toutes les réticences que je pouvais avoir, toutes les craintes, puis de vraiment plonger à fond dans cet univers, ce que j'ai fait. Et puis oui, les premières classes, c'était... Tout de suite, je ne me rappelle plus exactement du contenu, mais c'était des longues méditations au sol, des sons, des discussions sur comment on se ressentait, sur des exercices de couleurs, d'observation, de posture, mais toujours dans un aspect qui, pour moi, avait quelque chose de ritualistique, et qui, pour moi, me faisait atteindre une certaine transe. Et puis, je me suis rendu compte que il y avait des valeurs et une certaine sensibilité dans cet univers qui était un peu l'apogée ou le climax de des choses qui m'interpellaient dans le street dance et dans ce que je faisais déjà. Donc, c'était comme une manière d'extirper une partie qui me parlait, l'aspect de l'empathie envers l'autre, mais d'une manière fine et d'une manière... je répète le mot ritualistique là, mais d'une manière où on rentre dans notre corps puis on prend vraiment le temps de le ressentir et puis de prendre ce temps-là et de découvrir ce processus-là. Pour moi, ça a été très révélateur et c'est encore quelque chose qui me porte aujourd'hui et je sens qu'il porte aussi le milieu de la danse de Montréal. Donc, c'est pas juste le travail directement avec Linda Robin, mais c'est aussi de sentir son influence qui a comme ricoché, fait un effet de ricochet à travers tant d'autres artistes que j'ai côtoyés.
C'est merveilleux, ce van, c'est vrai, hein? Il y a eu des impacts, ces enseignements. Donc, on parle de ces enseignements essentiellement dans le cadre du cours de recherche créative. Ils ont teinté, selon moi, puis là, je me permets de prendre la parole, une grande partie des gens qui œuvrent en danse en ce moment. Et toi, ce qui est fantastique, c'est que tu peux faire le pont avec le street dance. Et tu peux faire des liens. J'aimerais ça peut-être qu'on approfondisse, si tu veux, au niveau de l'impact que ces enseignements ont eu sur toi et quelles graines elle a semées en toi qui se propagent au travers de tes fréquentations, tes enseignements, tes battles.
Oui, tout à fait. Mais moi, en sortant de l'école, une des manières que j'ai construit un peu ma voie artistique, c'était entre autres dans un spectacle que j'ai créé qui avait été présenté à Tangente, mais où j'improvisais totalement pendant à peu près une demi-heure. Linda était venue voir. Je me rappelle, j'étais honoré de sa présence. Et puis, je pense que j'avais voulu explorer de manière un peu cathartique et aller au bout de l'expérience d'être. Donc, c'était de l'improvisation. Donc, bien sûr, plein de gens ont improvisé avant. Donc, c'est de répéter une expérience qui existe déjà, mais c'était de vraiment aller au bout de moi. Qu'est-ce que ça me fait ressentir quand il y a des gens qui viennent, quand j'ai cette plateforme pour m'exprimer, puis je l'avais vraiment traversé d'une manière où j'essayais d'être profondément à l'écoute de chaque impulsion qui vienne. Donc cette influence-là me venait clairement à la fois de mon bagage de street dance, parce que c'est toujours la spontanéité qui a porté mon approche dans cet univers-là. J'essayais toujours d'arriver avec une tête vide et puis de partir du vocabulaire que je connaissais avec lequel j'avais grandi pour voir ce qui sortait. Puis c'est une valeur qui est présente dans le street dance, mais c'est aussi une valeur que j'ai ressentie présente et qui m'a touché dans mon parcours à l'école de danse contemporaine, puis dans le milieu de la danse contemporaine, que cette improvisation-là soit vraiment à l'écoute des pulsions et du moment présent. Et donc, je dirais que ça a été un peu mon baptême pour moi-même là, dans l'idée chorégraphique. Puis ensuite, je me suis retourné vers d'autres artistes, puis j'ai voulu un peu mettre en lumière toute la profondeur qui existait déjà en eux, mais qui n'est pas toujours mise de l'avant ou traduite d'une manière qui serait comprise par la majorité du grand public qui se présente en théâtre. Puis quand je pense à ça, en fait, il y a quelque chose dans le street dance qui est très dynamique, qui est très impressionnant et puis qui est très démonstratif, parce qu'il y a un aspect compétitif, il y a un aspect de dialogue. Donc souvent, il y a une friction qui se crée, puis on cherche à éclater pour dévoiler le meilleur de nous-mêmes. Mais d'un regard extérieur, souvent, la seule chose qui est vue, c'est l'aspect dynamique, impressionnante et même cool par moment, parce qu'il y a un sentiment de s'aimer soi-même qui est très présent dans le street dance, et se valoriser, se mystifier soi-même. Donc, le regard qui ne connaît pas ces approches-là peut être un peu bloqué par j'appelle ça la barrière du cool ou la barrière de l'impressionnant. Mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est beaucoup de sensibilité, de profondeur, d'écoute. Et puis pour moi, il y a une barrière toute différente dans la danse contemporaine, c'est la barrière du weird. Souvent parce qu'on explore des choses qui sont un peu inhabituelles et très proche des profondeurs de l'être humain,
Oui.
ça fait en sorte que des gens qui ne connaissent pas ça vont voir ce qui se présente, puis faire, ah, c'est weird, puis avoir de la difficulté à voir ce qui se cache derrière toute la sensibilité, la finesse, l'écoute, l'intelligence de construction chorégraphique, le rythme. Et puis donc, je pense qu'en mettant ces deux univers ensemble, j'ai voulu à la fois briser la barrière du cool pour montrer toute la sensibilité qu'il y a dans le street dance et briser un peu la barrière du weird des gens qui viennent dans des lieux expérimentaux en rendant l'espace très chaleureux et en ne me gênant pas de mettre en valeur la virtuosité aussi des danseurs. Donc, c'était un peu mon approche pour dévoiler toute la sensibilité que je trouvais chez ces artistes de street dance.
C'est merveilleux comment justement les graines semées par Linda Rabin à l'école de danse contemporaine de Montréal, anciennement l'ANMI, ont finalement pris forme en toi et t'ont amené, toi si jeune, à créer des mondes qui vont être plus interpénétrables par justement cette qualité-là de sensibilité, d'écoute, de finesse, tu as souvent nommé le mot finesse. J'aime bien ton mur du cool, puis ton mur du weird.
Ouais.
Pour en faire un éditorial. Mais donc c'est très riche. Est-ce que tu enseigne, toi, est-ce que tu t'efforces justement de transmettre les enseignements de Linda à travers, ou la pensée de Linda, la philosophie, à travers tes enseignements?
Oui, j'ai enseigné. Ça vient par période, mon enseignement, parce que, bon, vu nos carrières qui fluctuent, des fois avoir la récurrence ou la stabilité que prend un enseignement fixe devient plus compliqué. Mais en effet, j'ai enseigné souvent des ateliers de différentes sortes, certains ateliers d'improvisation qui étaient un peu, c'est étrange parce que je me rendais compte que c'était un peu les graines qui avaient été semées à la fois avec toute cette approche de Linda qui était transmise à l'ADMI, puis aussi mes cours de philosophie du cégep qui étaient à la même époque. Puis, donc j'ai un peu construit une petite pensée qui m'avait inspiré pour un atelier que j'ai enseigné pendant plusieurs années, où je guidais des improvisations, mais un peu par l'exploration des désirs, des pulsions intérieures qui nous habitent, puis un peu d'observer le niveau de, je pense qu'on contrôle nos actions, mais aussi on réagit à plein de stimuli qui nous font prendre des décisions. Donc un peu d'observer ce processus-là, puis de voir quelles sont les décisions qu'on prend et est-ce qu'on prend la décision de prendre cette décision-là. Donc tout ça à travers des réflexions que je posais pour inviter à l'improvisation. C'est un atelier que j'ai enseigné souvent puis qui m'inspirait beaucoup et je peux voir un peu le bagage derrière qui s'est construit. Puis j'enseigne aussi souvent des ateliers de travail au sol. Qui sont inspirés de la compréhension de l'utilisation du corps puis des principes physiques qui viennent du break, mais la douceur que j'ai développée à l'école de danse contemporaine, la douceur envers moi-même, je pense que c'était un des grands apprentissages de faire une formation de danse, c'était de comprendre aussi l'anatomie du corps, puis comment faire pour qu'il y ait moins d'impact, qu'il y ait plus de confort et plus de joie au final. Donc, c'est pour moi une manière de transmettre l'intelligence du break, mais tout en valorisant le confort, l'aisance et la joie de bouger qui a été valorisée dans mon parcours à l'école de danse contemporaine de Montréal. Donc, oui, ça a beaucoup été ça, mes enseignements. Sinon, des fois, j'enseigne vraiment le break pour les breakers. Puis ça, j'essaie de rester fidèle à ces traditions-là quand je reste dans cette optique-là. Mais il y a toujours un côté de moi qui est plutôt rebelle et qui aime un peu briser les conventions tout en étant à l'écoute et en respect de tous les enseignements qui m'ont traversé, puis les différentes valeurs qui sont venues à la fois du milieu du street dance, puis à la fois du milieu de la danse contemporaine de Montréal.
Wow! My God, Sovan! Quel beau témoignage!
C'est tellement agréable de t'entendre parler si clairement de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui. Moi, je suis très impressionnée par où tu es rendue. J'ai les souvenirs de toi allongée au sol, perdue dans les vapes, oui. Et je me demandais où va-t-il, où est-il? Oui. Et
Oui.
puis, petit à petit, j'ai compris, mon Dieu, tu saisis des choses, ça te parle, oui. Mais au début, je me demandais, wow, où est-il?
Oui.
Je me
Oui,
demande
ben je
en quoi tu te souviens de ces moments.
Oui, je me souviens de vraiment rentrer très profondément dans tous ces exercices, puis le souvenir en est presque gênant parce qu'on se met dans des états très vulnérables quand on accepte de plonger pleinement dans ce type d'univers qui est très vulnérabilisant en quelque sorte. Et puis, une chose que je me souviens, c'est me sentir très valorisé par ce plongeon en profondeur, puis de sentir que je pouvais me mettre dans un espace qui, dans plusieurs autres contextes de ma vie, serait très fragilisant, parce que pas accueilli avec autant de soins et de valeurs. Donc pour moi, c'était un espace où je pouvais vraiment entrer profondément dans ces explorations de mon intérieur, mais même sentir encouragé de le faire, puis valorisé dans la transe, dans la perte de repères, dans la déblatération des fois de qu'est-ce que ça t'a fait penser, où ça t'amène. Des fois, ça perd le fil, mais voilà, je me sentais encouragé à y aller pleinement.
Je suis curieuse s'il y a une exploration en particulier oui, que tu gardes en souvenir ou un
Je
moment.
garde un souvenir assez flou d'une exploration que j'avais faite et je me rappelle de la couleur jaune, je me rappelle un peu du reflet de la lumière dans les fenêtres, puis je me rappelle d'en parler, puis c'est comme, il y a comme plein d'images différentes, tu sais, on se permet de rentrer un peu dans les vapes, puis bon, d'être allongé. Moi, je me rappelle que souvent, dès que je pars dans ces univers-là, je m'endors aussi, puis là, je tombe dans cette espèce de mi-sommeil, mi-éveil, qui fait en sorte que ça permet vraiment de décoller, là. Et puis, oui, donc je me rappelle de certaines explorations avec comme des couleurs, des lumières, je revois les gens autour. Je me rappelle aussi des explorations un peu d'imitation de posture ou de prendre le visage, l'expression, la posture des autres, puis un peu l'adopter. Et puis pour moi, ça, c'était un haut travail de développer son empathie, puis un peu se fondre dans le corps de l'autre, puis essayer de voir, d'anticiper quelle sorte de réaction ce corps-là ferait juste en voyant l'enveloppe. Puis pour moi, cette espèce d'hypersensibilité à l'empathie qu'on accorde à l'autre, c'est quelque chose que j'applique beaucoup dans ma manière de créer, puis de même juste de regarder des spectacles. Je me rends compte que mon principal réceptacle, c'est vraiment de me mettre à la place de la personne qui danse, puis d'essayer de vivre ce que la personne est en train de vivre en me transposant. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait dans les classes et puis qui me suit.
Merci. Wow, Sovane, quelle richesse! Oh, c'est vraiment intéressant de t'entendre parler et réfléchir. Je crois que tu es un penseur de la danse dans ton très jeune âge. Et pour une, j'en suis très fière, puis je te remercie infiniment du partage que tu as fait aujourd'hui, de ton expérience. Pour moi, c'est complet. Et c'est de toute beauté.
Yeah, wow. La clarté. Ben. Oui, j'apprécie énormément ce que tu viens de nommer, surtout parce que ça me montre comment l'information est intégrée chez quelqu'un d'autre et est même transformée pour servir à un autre, comment on dit, pour un autre purpose, un autre quoi?
Une autre cause.
Une autre cause, oui. Oui. Mais, oui.
Un autre usage.
Voilà, un autre usage,
mm-hmm,
oui.
Mm-hmm. Oui, ben c'est un honneur pour moi de participer à cette entrevue, puis de pouvoir mettre en lumière comment le leg de Linda Robin m'a traversé, puis m'a traversé de Linda, mais aussi, comme je parlais des ricochets, là. Mm-hmm. Et puis, les pionniers sont très importants dans le milieu du street dance dans lequel j'ai grandi. On les appelle les OGs, les Original Gangsters. Donc, je sais pas si Linda, tu t'identifies au...
Linda Robin is an OG!
Je sais pas si tu t'identifies au terme gangster, mais pour moi, c'est vraiment c'est vraiment important de pouvoir, redonner de la valeur autant que possible aux personnes qui ont bâti la philosophie, puis la sensibilité qui est partagée aujourd'hui à travers la communauté de Montréal.
Merci.
Merci à vous.
Un morceau de chocolat avec Linda. Idée originale du collectif LEG réunissant Emmanuel Bourassa-Baudouin, Mathis LP, Nicolas Patry et Linda Rabin. Production, Espace Perrault Transmission chorégraphique avec la collaboration du collectif LEG. Captation et montage, Maude Archambault-Wakil. Avec Linda Rabin et Sovane Rochon-Promtep, rencontre animée par Lucie Boissineau le 22 novembre 2024 en Zoom. Un projet soutenu par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal.